Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui dans ce beau soleil qui ressemble tant au climat que nous pouvons trouver sur les hauts plateaux tibétains avec ce grand ciel bleu. Comme vous avez pu voir, les drapeaux à prière ornent les jardins du musée du Quai Branly pour célébrer cette belle semaine. Alors, d'abord, remercier Stéphane Martin et puis toutes les personnes de la direction du musée du Quai Branly qui ont permis cette semaine de l'Himalaya autour de la très belle exposition dans le blanc des yeux sur les masques primitifs du Népal que je vous invite vraiment à découvrir, qui est une magnifique exposition qui sont dans les hauteurs du musée. Il faut grimper pour les découvrir, comme les cols himalayens. Alors, il nous semblait essentiel pour débuter cette semaine de l'Himalaya de célébrer véritablement et de consacrer au mystère et aux traditions du toit du monde, de célébrer deux grandes dames. Alexandra David-Nel, donc, qui a marqué l'histoire de l'exploration himalayenne par toutes ses aventures absolument extraordinaires, l'infatigable voyageuse et exploratrice que vous allez pouvoir voir dans le film qui lui est consacré aujourd'hui, et Marie-Madeleine Perronnet, à qui nous voulions vraiment rendre hommage aujourd'hui, qui a été sa dernière secrétaire, qui a passé 10 ans de sa vie auprès de la grande dame, qui a été plus qu'une secrétaire, qui a été une gouvernante, une amie, une confidente, qui était 24 heures sur 24 avec Alexandra, qui nous fait le grand bonheur d'être avec nous aujourd'hui, qui a bravé les tempêtes et le gel de la SNCF pour arriver jusqu'au Quai Branly aujourd'hui, et qui pourra, après la projection du film, témoigner de ses années auprès d'Alexandra et pourra répondre à toutes vos questions. Le film que vous allez voir est un vrai hommage à Alexandra et à Marie-Madeleine, où on la voit repartir sur ses traces au Sikkim pour rendre un petit Bouddha. Le film Du Sikkim au Tibet interdit a été réalisé par Jeanne Mascolo de Philippis et Antoine de Maximi. Il a été tourné en 1993. Il a raflé des dizaines de prix internationaux. Jeanne sera là ici pour répondre aussi à vos questions. Et Irène Frein, qui s'est beaucoup intéressée à l'exploration et à la grande dame, vous verrez donc la table ronde à l'issue de la projection. Alors, je tenais aussi vraiment à remercier Lama Gyurme, qui est présent avec nous aujourd'hui. Lama Gyurme, qui est un moine bouddhiste. Vous pourrez le retrouver jeudi en concert avec Jean-Philippe Riquiel à 20h, ici même dans ce théâtre, si vous voulez continuer à célébrer l'Himalaya par les chants sacrés. Donc vous avez, je pense, tous eu un programme avec l'ensemble des activités possibles dans les jardins, des parcours comptés, des ateliers pour les enfants et des différentes conférences qui auront lieu aussi bien au Salon Kershach que dans cette même salle. Donc Lama Gyurme nous fait le grand cadeau pour débuter cette semaine de l'Himalaya par des chants sacrés. Donc il va nous proposer des prières et une offrande de Mahakala, qui est un dieu dharmapala, protecteur du dharma et de ses pratiquants. Nous aurons un chant de bon augure pour célébrer ce haut pays et célébrer la diversité de la culture himalayenne, donc par des chants de bon augure pour que cette semaine soit placée sous le seuil des dieux. Et puis un dernier chant donc de récitation de Padmasambhava et un souhait pour l'éveil. Merci Lama Gyurme, je vous remercie de l'accueillir. Merci beaucoup.
Ом назинам дара жилен рове даже жоже сина жува и санжи чодан гендем папе зукуна шасе даже даже жодеме жебо зедангам чамбе жебе гува гуна гуна гува жасе дабазе лумбо дабазе дабадане симже дамже лавун рове изен зебе дала рове цинзан дебе даже дявар жива жала чанзола чамбе жинна бальдин дозе жен ченре зон гумбо жабе сай нимбо жива намбазе намге жимо бажа гендо зо обер дозе бега лошина ново даре жин Chazen len nan ra ji be ji jang ji zang ba ji la chan zo lo rin jin du ju ra ji se ji jang du ju mo za yong ga ba la nyen ra du nam pi zun pi yong mi nan ji wang ju rin jin da ju ji ji jia zun jo zi jia gun jin ge zun ji ge zun wang zi ma ba ra shi lang ma ji la chan zo lo zang ba xin bun de yong se mi go mi dun den na jia wo yu go zun ba ji bo dang lu wang mi nam de se de la zi ko lo zun ti shu la dang dun dun do ji jin pi wang ri ji ju de jin sa sun ne zu ge li ra ji bi ji din jo wang ji la chan zo lo da ja din de jia wa zun ba la ge dar jia wa zun. Deden nombo ya zenjo gi ngonru nye be mai jo ne je so onda koro ndo kando mambu koro ji ji je so da ru onji ji ji la ji ri je so so Amirda gunare anana ombe omazuwa jada zanda mazuwa jada tombe ngale yamle lora le me dendo ale gavala shande zingi onzuka hondrum anze kana jisama loye me barante jayi dan jivashi sanje namji toga nendizi jen rande zimbe ishiji dizi jazu jimbar juru om ahon haho re om ahon haho Om Aum Ha Ore Om Zuba Shuda Zoda Ma Zuba Shuda Han Dong Bengal Rangin Dudu Benyal Hong Li Shi Gu Ma Cha Ru Gu Du Te Tang Bo Ni Ji Du Bar Ba Ni Mi Gu Zhong Da Zi Zong Tang Ma Ni Zhang Ma Ru Da Xia Ba Da Wa Dong Gu Zhen Ru Ba Dong Zhu Dang Cha Cha La Zhu Ba Ye Ge Chong Ye Jin Ba Xiang Ni Ni Bei Da Ji Xin Bei Su Xi Da Wa Ni Ma Ji Su Ji Si Ma Ren Mi Wu Zhi Mi Ji Be Wu Jin Jin Sin Do Ra Ye Ti Le Zhu Wa Ju Ba Zin Ni Ge Dong Ma La Jia Den Ba Mi Wong Ba Ye Na Xiu Ba Wu De Ye Na Jo Le Ba Lian Lan Ma Na Ma Zhu Wa La Xi Ma Cha Jin Na Ye Do Wa Di Nu Nu Jin Cha Ra Ba La Mu Na Zhi Ji Su Ma Do Na Nyam Ye Su Zin Na Mi Zha Ma Na Jiang Di Wa Kho La Zin Ma Jia Du Da Ge Ra Zin Na Wu Bu Zhi Dan Tu Ra Zin Ma Yun Du Du Gun Zha Xe Ru Zin Na Tun Yin Zin Ma Di Da Na Wu Di Nga La Xi Wa Da Na Ge Ji Wa Na Sa Lan Su Wa Di Ye Chi Ri Du Pa Gen Dun Ji Zang Da Ji Ji Su Su Da Rangi Ningga Newe Zhe Zhe Xia Lu Siwe Zhe Zhe Ndi Ge Xin Gang Ji Bei Zhung Ni Yi Shi Gung Ma Cha Zhu Ba Ting Na Zha Ji Ji Lama Ye Na Ba Wa Ngar Da Ji Xin Yue Na Ba Ma Zung Da Ji Ba Ka Di Xin Xin Tam Jin Jia Zhu Ma Zho Dan Jie Ba Om Ben Zha Ma Ha Ka La Sa Ba Ri Wa Ra Chim 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 Jim, 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 Ben Za Sama, Za, Za, Hong Bang, Hong Dengi Da, Jung Ye, Allah Zizan Be Shiji De, Gung Ma Kudan Jala Be, De Ma Zun Shiji Su Su, Om Shiri Mahakala Ya, Sahabari Vara, Argan, Bandin, Pu Ben, Du Ben, Alu Ge, Gende, Niu De, Shabda, Brade, Zoha, Om Beza Mahakala, Jim, Chira, Bion, Bino, Om Mahakala, Hong Yu De, Jene, Zala, Cha, Gumboi, Jin, Du, Batu, Jire, Om Mahakala, Ching, Ali, Mahi, Chang, Du, Batu, Jitru, Be, Gu, Teme, Rura, Jin, Du, Be, Nova, Jira, Chang, De, Kansi, Kuntu, San, Be, Chirin, Dabar, Jira, Om Beza, Sabara, Na, Kam, Hong, Tu, Jin, Yu De, Jene, Zala, Nova, Jima, Cha, Rupa, Jira, Gumbo, Kudan, Jire, Dula, Jime, Chini Naji Bhaji Ghe Ngoza Chini Lini Dhu Dubi Rara Dhaale Duri Dhawe Chini Gyo Sanji Rebe Dhaji Dhe Nujan Mebe Dhaji Bhe Chungne Dhuwe Jara Dhaan Jari Dhaji Ya Dhebe Lho Nawa Chusun Chini Dhe Dena Melan Dhani Dhe Dhani Lado Dhari Dhum Dhuzi Me Dhan Rade So Balin Suji Redar Pung Chepra Sini Dhuri Dhaan Lama Gume Me Ba Ishi Mege Dhaji Bhe Ishi Gumba Ishi Nore Ishi Nore Chamji Bhaji Dhani Mati Nujan Wanshi Shin Dhe Bhaage Nujan Zan Su Sisu Wanshi Dhebe Kho Samhe Chabhe Tuan Gaan Dhe Shibali Jhe Jho Sini Jhe Dho Bhe Shiri Dhamai Drogun Sanje Sajunje Om Benzara Narai Jinje Om Benzara Makala Chimche Rabi Gane Binayaga Om Guru Makala Hari Nisazidinza Ayun Bune Dharma Bujin Guru So Om Bendara Nara Dimde Om Bebe Om Bendara Mangala Jimjeda Bigane Benayaga Om Be Guru Mangala Hari Niza Zidinda Ayubine Jana Bidin Guru Zo Om Bendara Nara Dimde Om Bebe Om Bendara Mangala Jimjeda Bigane Binayaga Om Bebe Guru Mahagala Hari Niza Zidinza Ayubine Dharma Bidin Gur So, om the Magala Jimjira Binam Kage, om the Magala Jimjira Binam Kage, om the Magala Jimjira Binam Kage, Kai Jomon, Bedesum Kage, come Chedabala Binam Kage, come to Namida Washamkurum in the Kage, come Dagrasam and Jodom Kage, to use the Magala Dajum in the Kage, Kayam, Shirimakala, Jasno Bagarinego, but the Magala in the Renate, Abagarin, Yadita, Samara, Sid, Indudan Kage, K, Maramara, Dihana, Dihana, Binam, Bina, Hana, Hana, Dada, Bazapos, the Nemik. Mare Hungbe Dambalinda Kake Kaye Mahakala Sabarewara Argam Bandin Bube Dube Aloge Genden Nud Shabdam Brade Zazoha Ombe the Mahakala Jimjira Bigani Bina Hombe Bezoma Honu the Genesala Chandra Jada Jimbin Novajim Dawish and the Jen Jerudjin Novajin Yevidu Tamedamaran. You met the Vadani Dons and the Shavas and the Joan Jay, Dovish and the Joan, but the Jason River Origin of Bar, Charles Norel, what you, Chu, Majiji, then Tazamu, what you do his generation to Hong, Singleton, Doma Lamazi, Chijin Doma de Jela, Najada Jacojela, and the Mesa Majada, Panadana was on, Rojija, she could not change it on Jalas away, the Jingle Dalazo, the Jalazo, Murugin, Dalazo, to me. Don't again, I'm about the Melang and the Mangan, the Jangiba, Mabazo, Jitin, the Jan Roledan, Dunabin, Jibadan, deliver. Yila de Bakundro Zom, Bandasado Samaya, Manubala, and Bandasado Dinubati, Jumebo, Sudukhaimabo, Subukhaimabo, Anura, the Mabas, Sakamasa, Mizidam Shiria, Guru Hung Ha, Ha, Ho, Baga, and Sarataka, the Bazaman Benzibawa, Ma, Samaya, Sado, Majuro, the Yambadaka, and Domolo, and Jibatan, Dengibes, was Lamagumba, Emil, and Tanigibis, and Dai. No Malezo, Lamagum, Dying Gibbage and Dies in the No Malezo, Lamagum, Dying Gibbage and Dies in No More Maleza Washo, Dirni, then Don Linji to Kawasi to Shunit and Emesa Don Wajo, the Chona Libot, Suda Dita, Benza is oh.
On va lancer le film, donc du Tibet au Sikkim interdit. On se retrouve juste après pour la table ronde avec la réalisatrice Jeanne Mascolo, qui a réalisé le film avec Antoine de Maximi. Marie-Madeleine Perronnet, la secrétaire d'Alexandra David-Nel, qui nous fait le grand, grand bonheur d'être là aujourd'hui avec nous, et Irène Frein. Très bonne projection, bon voyage, à tout à l'heure.
La fois que j'ai entendu parler d'Alexandra David-Nel, c'était par une de ses lectrices. Elle m'avait fait toute une liste de ses défauts et de ses qualités, le premier étant nettement plus important d'ailleurs que les seconds. Elle avait à l'époque 91 ans et cherchait une dame de compagnie pour les quelques jours, disait-elle, qu'il lui restait à vivre. Et ma foi, ces quelques jours ont finalement duré plus de 10 années.
Bien des dizaines d'années plus tard, comme Alexandra David-Nel, j'emprunte le train Joujou, comme elle l'appelait, qui va me faire voyager à travers les Himalayas. Puis de là, j'irai au Sikkim, exaucer, si j'ose dire, le dernier vœu d'Alexandra David-Nel, celui de ramener au monastère de Podang Gompa une statuette historique qui a 6 siècles et qui lui avait été offerte en 1912 par le Maharaja du Sikkim de l'époque, Sidi Wang Chupu, qui était devenu pour elle un grand ami.
Puis peut-être que je vais manquer d'humilité en disant ceci, mais je crois que j'aurai ainsi payé ma dette de reconnaissance que je dois à la terrible et fascinante vieille dame de Song Tenzong.
Exploratrice, écrivain, orientaliste, Alexandra David-Nel devient célèbre dans le monde entier en 1925, car elle est la première occidentale à avoir réussi l'exploit de pénétrer dans Lhasa, la ville interdite du Tibet. Infatigable, elle parcourt l'Asie pendant plus de 20 ans. Et s'éteint à Digne en 1969, à l'âge de 101 ans, alors qu'elle vient tout juste de faire renouveler son passeport.
Quelle sacrée bonne femme!
Quelque temps avant sa mort, elle m'a dit « Tu sais, Tortue, je vais mourir. Comme tu m'as connue, il se peut que des gens te demandent de parler de moi. Qu'est-ce que tu diras ?»« Ah, oh, ben ça, madame, je dirai la vérité. Vous pouvez compter sur moi. » Elle dit ça, je sais bien que je peux compter. T'es bien trop bête, mais ça va mentir. Et ça ne suffisait pas. On dit, mais quoi? Qu'est-ce que tu diras encore?
Idrisine, là, et des messieurs à Gibus de Paris étaient venus inaugurer la voie qui avait été construite par Philippe Nel. Alors, on voit les messieurs à Gibus, là, et elle me raconte l'histoire suivante. Elle était sur le ballast, elle accompagne son mari pour la réception de tous ces grands personnages de Paris, et Philippe Nel dit à ces messieurs, permettez-moi de vous présenter mon épouse, Alexandra David. Et il y a un monsieur qui, avec un gros ventre comme ça, qui sort de la fenêtre, qui dit, quoi, monsieur Nel, c'est vous le mari de cette femme admirable? Monsieur Nel a remis sa casquette sur la tête, il est parti le long de la balasse, il dit, on n'épouse pas une femme pour l'admirer. Évidemment, alors c'est là que je ne peux pas, la suite, je ne peux pas la raconter.
Voilà. Ah bah si, non. Si, je crois
non,
que...
Non, mon éducation ne me permet pas.
Oh, mais Marie-Marie.
Je sais que ce qu'il m'a répondu concernant les femmes, je lui ai répondu, moi j'ai dit ceci à Madame Nel, j'ai dit, Madame Nel, il vous a dit ça en 1904, et vous êtes parti qu'en 1911, moi je partais le soir même où je le tuais. Donc, c'était. Mais voilà, c'était pas beau du tout au départ, et ça finit par une histoire d'amour formidable.
L'histoire d'amour formidable, oui. Ce que je voulais juste préciser par rapport au film, c'est que bien sûr, je savais ça. C'est vrai que l'enjeu du film, en 50 minutes de résumer la vie d'une femme plus que centenaire, et une femme comme Alexandra, c'était une vraie gageure, surtout à une époque où on n'avait pas, on montait pas en numérique, on pouvait pas revenir sur ce qu'on avait monté. Chaque plan qui était monté, chaque image qui était montée, elle l'était définitivement. Donc il fallait vraiment penser très en amont l'écriture du film au moment du montage. Et c'est vrai qu'en le revoyant, bien sûr, 20 ans plus tard, quand on a beaucoup travaillé sur le sujet, quand on sait beaucoup plus de choses, on peut toujours se dire qu'il y a quelques petites choses à reprendre. Mais c'est vrai que je m'étais inspirée du premier tome de la correspondance que Mado donc, avait déjà publié. Et ensuite, c'est vrai aussi que c'était ma manière, je voulais en tous les cas, j'avais pas assez de temps dans ma phrase de commentaire, mais ce que je voulais faire, et ce qui reste à chaque fois que je présente le film, je n'omets pas de faire la remarque fait Marie-Madeleine. Et je précise que c'était pour dire aussi que c'était le sens de générosité au sens où elle était d'avant-garde, elle envoyait ses lettres qui permettaient à Philippe de faire le relais, d'envoyer dans l'émission, là où elle était, l'argent qu'elle allait lui servir. Il n'y avait pas, les mails, il n'y avait pas les fax, il n'y avait pas les banques qui permettaient de recevoir comme ça. Et qu'il a été ce fidèle compagnon qui a permis de recueillir tout ce qui va après servir la deuxième partie de sa vie, son travail, c'est ce qu'elle va publier. Et c'est dans ce sens-là que je voulais faire une phrase pour rendre hommage à Philippe.
Et c'est
Nel.
Exact. Voilà. Comme dit Jeanne, 16 heures de bande, il a fallu réduire à 52 minutes. Alors évidemment, on voit que c'est tout le temps coupé. Voilà.
Alors, juste peut-être, Jeanne, parce que pour les personnes, tout le monde connaît votre travail et les nombreux films que vous faites pour la télévision, racontez peut-être qu'avant l'aventure avec Marie-Madeleine, vous étiez partie au Tibet en 1990 avec 7 femmes au Tibet, donc avec Marie de Pongeville, pour une aventure à cheval sur les traces d'Alexandra. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans votre quête sur Alexandra et votre désir de célébrer la grande dame?
Bien sûr que ça avait participé. C'était en 89. C'était 15 jours après les tristes événements de Tiananmen. C'était un projet que Marie Jaoul de Fongeville avait pensé et a monté pendant un an à partir de 88. Donc on a travaillé pendant un an ensemble sur ce voyage en 89. Non, j'avais déjà, comme je crois, beaucoup de gens dans la salle qui s'intéressent à Alexandra Lavinel. J'étais tombée amoureuse de l'œuvre d'Alexandra bien avant, quand je commençais à m'intéresser à l'Himalaya et au Tibet. Et j'étais moi-même devenue, j'avais fait des études d'ethnologie, donc j'étais une connaisseuse de certaines de ces régions du Tibet depuis les années 85. Et bien évidemment, je m'intéressais à l'œuvre qui, à l'époque d'Alexandra, il y avait encore beaucoup de ces livres que Marie-Madeleine, petit à petit, faisait rééditer, mais beaucoup de livres qui étaient épuisés. Oui. Ça semble incroyable maintenant quand on voit le nombre de livres qui se vendent, mais à l'époque, quand on s'y intéressait et que j'ai rencontré Marie-Madeleine, dans la fondation, il faisait un travail monumental d'archivage de toutes ces photos et de retrouver toutes les éditions et les livres pour en faire, pour les faire rééditer et republier. Et donc, c'est vrai que c'est en devenant l'assistante de Marie Jaoul de Pongeville, je ne sais pas, elle était conviée là, je ne sais pas si elle est là dans la salle, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est elle qui a monté cette première grande expédition à laquelle j'ai participé en tant que film, où je suis son assistante sur 3 mois de voyage à travers le Tibet, et où là, on est parti sur les lieux qu'Alexandra avait, où elle avait vécu. On est passé par tout ce dont on parle dans le film là. Et c'est vrai qu'en venant, je me suis dit, je connaissais Marie-Madeleine, je connaissais son envie très très forte de retourner au Sikkim pour exaucer ce vœu. Et forte de mon expérience de cinéma, je me suis dit, bien, pourquoi pas me lancer moi-même dans la réalisation de ce sujet. Voilà. Et j'ai aidé Marima à partir au Sikkim.
Mais ce serait bien d'y retourner tous ensemble.
Ah, pourquoi pas? Bon, il faudra amener Madame Irène Frein aussi.
Exactement.
Parce que Madame Irène Frein vient de sortir un bouquin, enfin, il y a quelque temps, là, maintenant.
J'allais justement en parler sur...
Parce que vous m'avez fait un livre. J'ai pas sauté une ligne. Remarquable. Et vous êtes un témoignage, parce que vous avez fait des recherches dans certains endroits que moi, j'ai pas pu faire, professeur Deng. Il y a une place de choix dans ma bibliothèque, croyez-moi. Car vous êtes un grand témoin, avec tout ce que vous m'avez amené. C'est formidable, je vous félicite.
Voilà. Alors Irène, peut-être en deux mots, vous connaissez évidemment tous les livres d'Irène Frein, grande femme de lettres, romancière, historienne. Est-ce que c'est un peu vos origines de bretonne, après avoir écrit le premier roman sur René Madec, petit mousse breton devenu nabab, qui vous a emmené à voyager à travers l'Orient, l'Asie, parce que vous êtes vous-même une grande voyageuse, vous avez beaucoup écrit sur l'Asie, et surtout un livre absolument extraordinaire, donc j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas encore découvert à se précipiter pour le faire dédicacer après la table ronde, donc le roi, à la recherche du royaume, voilà. Donc qui est un livre absolument extraordinaire sur Joseph Roch. Voilà. Alors quel est le lien de Joseph Roch avec Alexandra Davinel, qui a été un des témoins et qui a permis à Alexandra de faire valoir ses expéditions, parce qu'elle lui a demandé un jour de témoigner des expéditions qu'elle avait pu faire et qui étaient peut-être mises en cause.
Alors d'abord, il y a deux questions dans votre question. Mon lien avec l'Orient, il est très simple. Je suis née dans une ville qui s'appelle L'Orient. Autrefois, il y avait une apostrophe, et cette ville bretonne a été fondée de toutes pièces au XVIIe siècle par Louis XIV pour la Compagnie des Indes. Et les Indes, c'était l'Orient multiforme. Donc, je suis née dans une ville détruite par la guerre. Jusqu'en 60, la ville était détruite. Et vous savez, c'était une enfance genre Sarajevo ou Beyrouth ou Grozny. Hein, et dans ces cas-là, les enfants rêvent d'un au-delà. Et moi, mon au-delà, ben, c'était les Indes, parce que c'était le passé de la ville. Et donc, plus tard, parce que c'est pas dans des milieux modestes, c'est pas tout de suite. Et les chemins m'ont mené vers l'Inde au sens multiforme du terme. Et dans les Indes, ben, il y a eu en effet le Tibet. Par des rencontres ici, je crois que nous sommes tous faits de rencontres humaines, de rêves d'abord, et de rencontres humaines. Et comme je dis toujours, la meilleure façon de réaliser de ces rêves, c'est de commencer par en avoir. Et j'ai eu beaucoup de rêves enfant. Et voilà, donc ça c'est pour la première question. La deuxième, c'est Joseph Roch. Alors Joseph Roch, c'est un homme qui, en 1923, est tombé dans une petite ville chinoise, Chongqing, en Chine de l'Ouest.
On peut peut-être dire en deux mots qui était Joseph Roch.
Alors,
pour les personnes
justement,
qui connaissent
c'est un Autrichien, imposteur et scientifique. Les deux à la fois. C'est un garçon qui était fils d'un concierge du palais Potocki à Vienne, l'immense famille Potocki, richissime. Et il était extrêmement doué, il avait été élevé en même temps que l'héritier Potocki, qui avait le même âge. Simplement, il était plus doué que l'héritier, mais lui était fils du concierge. Donc il a bénéficié des mêmes études, mais quand il a eu une quinzaine d'années, ben, la seule façon de s'en sortir qu'on lui proposait, c'était soit de se faire prêtre, soit sinon d'entrer dans l'armée. La guerre de 14 se précisait, et ça voulait dire aller se faire tuer. Donc il était assez beau de sa personne, il s'est sauvé. Il a certainement fréquenté Freud, ce qui est important pour le Tibet d'ailleurs, parce qu'il a eu des analyses des trans tibétaines qui sont absolument passionnantes. Il a connu la Vienne, justement, héroïque, hein, qu'on peut dire, du point de vue artistique, la Vienne de Kokoschka ou de Egon Schiele, etc. Et il est parti en Europe, et puis il a réussi, sans doute parce qu'il était... il vendait ses charmes à des hommes ou à des femmes, les deux. Il a réussi à partir aux États-Unis, puis à se sauver au Mexique. Et de là, on le retrouve sur la côte ouest des États-Unis, puis à Hawaï. Et en fait, chez Potocki, enfant, il avait réussi à apprendre le chinois. Parce que Potocki descendait du fameux Potocki qui avait écrit d'abord le manuscrit trouvé à Saragosse, qui est un texte fondamental de la littérature européenne, mais qui, par ailleurs, avait fait une expédition en Chine. Et avec un manuel de chinois trouvé dans la bibliothèque des Potocki, à 11 ans, il avait appris le chinois tout seul. Donc, à Hawaï, il se retrouve en contact avec des Chinois. Et par ailleurs, et il faut qu'il survive. Et à ce moment-là, il s'invente un faux diplôme de l'Université de Vienne pour être professeur de sciences naturelles dans un collège. Et sa face, il connaît le latin, ce qui aide pour les sciences naturelles et la botanique. Donc en fait, ce garçon qui a 20 ans, il s'arrange simplement pour avoir une leçon d'avance sur les élèves et il arnaque tout le monde. Et il séduit un professeur de l'université. Il arrive à fuir le collège, là encore, à devenir chercheur en botanique. De là, il va séduire également les gens d'Harvard, de l'université d'Harvard. Il va donc retourner aux États-Unis, enfin sur le continent. Il s'infiltre à Harvard, mais parallèlement au National Geographic, qui est l'équivalent, si vous voulez, de Géo actuellement. Et il obtient une mission en Chine. Mais il est toujours à la fois mi-scientifique, mi-explorateur. Et là, dans une ville chinoise, il tombe sur un type qui cherche le royaume des femmes. Au nord, de, enfin, sur les marches sino-tibétaines. Un anglais, un espion anglais, Pereira, qui porte un nom espagnol parce que lui-même est héritier de juifs maranes christianisés en Angleterre. Enfin, une histoire de fou, c'est un espion. Dans cette ville de Tongshen, était un nid d'espions britanniques. Et en fait, que va faire Rock, c'est qu'il va lui voler son rêve. Trouver,
cette montagne.
D'une part, le royaume des femmes dont il est question dans d'authentiques annales chinoises du 6e et 7e siècle, que je reproduis dans mon livre, traduite évidemment, et d'autre part, une supposée montagne plus haute que l'Everest que ce Pereira avait vue quand il avait fait un trek d'espionnage Pékin, Lhasa, Calcutta. Donc, son idée, c'est de voler le rêve pour être célèbre. La maladie du 20e et du 20e, je veux être célèbre. Donc, il va monter cette expédition grâce à en arnaquant concurremment l'université d'Harvard en botanique et puis le National Geographic, c'est-à-dire le poids des mots, le choc des photos de l'époque, en mentant à chacun pour avoir de l'argent des deux côtés. Il va monter son expédition comme une expédition sur la Lune. Il va aller chez le meilleur fournisseur de camping de l'époque, enfin des trucs insensés. Il emporte un magnétophone, un gramophone, voilà. Et puis des disques de Melba et de Caruso. Et il écoutera à 5000 mètres d'altitude de l'opéra viennois par Caruso et Melba, et il le fera écouter au Tibétain. Mais surtout, il monte son expédition. Et c'est là qu'il va rencontrer Alexandra. Et grâce à la correspondance d'Alexandra David-Neil, et par ailleurs aux journaux de Joseph Rock, que j'ai découvert à Édimbourg, au musée botanique, parce que Rock, au moment où il a dispersé ses archives, il les a dispersées dans toute l'Europe et les États-Unis.
Et ce qu'il
avait, pour pas qu'on sache ce qu'il avait fait exactement. Simplement, il n'avait pas prévu Internet et la numérisation. Donc moi, j'ai tout retrouvé, sauf les journaux que je suis allée consulter sur place. Et donc, j'ai regardé le journal de Rock aux dates de la correspondance d'Alexandra David-Neil. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'ils s'étaient rencontrés, ce qui s'était passé. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que fin octobre 1923, elle est à Lixiang, chez les Nashi, dans une société semi-matriarcale qu'on appelle les Nashi, qui sont des gens qui sont au centre de mon livre, puisqu'ils ont une écriture qui est à la fois écologiste et féministe. Pour tout vous dire, grand se dit femme dans la langue Nashi, et petit se dit homme, et beau se dit fleur, avec le pictogramme de la fleur. Bon, vous trouverez ça dans tous ces pictogrammes dans mon livre. Et donc, Joseph Rock est dans les montagnes en train d'herboriser un peu au nord. Elle est à Lixiang. À Lixiang, elle est chez des missionnaires. Et là, chez ces missionnaires, elle trouve un journal français qui est l'Illustration, où elle trouve un article sur Colette. Et là, elle écrit à son mari, « Ah, cette sacrée Colette, elle a quand même fait du chemin, dire que je l'ai connue cantatrice à l'Opéra de Tunis. »
Comme elle.
Comme elle. Donc au fin fond d'une mission réfrigérée de Lixiang en octobre 1923, où elle se gèle. Elle ne peut pas supporter ces missionnaires protestants où elle mange effroyablement mal. Elle est en train de penser à Tunis et à Colette, qui est une femme de son genre. C'est-à-dire que pour moi, la rencontre, justement, ce souvenir de Colette qu'elle avait connue, elles ont été des vagabondes, comme le titre de Colette, c'est-à-dire des femmes qui ont fait ce que Virginia Woolf a décrit comme étant l'essentiel du féminisme, alors que les femmes, jusqu'au XXe siècle, avaient été cantonnées dans l'espace clos, et qu'on disait que les femmes qui écrivaient n'étaient capables que de parler de peine de cœur ou d'affaires familiales, bah forcément, vous parlez de ce que vous avez sous le nez. Hein. Eh bien, ce sont des femmes qui ont brisé l'espace, qui ont enfoncé l'espace comme les hommes, et qui ont fait œuvre d'écrivain dans le monde. Moi, je ne crois pas aux écrivains voyageurs. On est écrivain ou on n'est pas. Hein. Ouais. Et on peut être écrivain dans sa chambre, hein, ouais, avec, comme Proust l'a fait. L'espace est mental. Mais il y a eu une recréation, aussi bien chez Colette qu'Alexandra, de l'espace mental à travers cette transgression fondamentale par les femmes qui a pénétré l'espace et en faire son espace mental. C'est comme ça. Et le tout, pour moi, a été prodigieux parce qu'il est observé un peu plus tard par la lorgnette d'un mec. Joseph Roth, qui a un rapport à la sexualité, qui est lui-même, il est fasciné par les femmes-hommes, parce qu'il perçoit Alexandra comme une femme-homme, puisqu'il est lui-même en problématique par rapport à sa définition. Est-il une femme? Est-il un homme? Hein, et il est comme ça trouble, il va se cacher de son homosexualité toute sa vie, Joseph Roch, il ne le dit pas, mais bon, moi je l'ai un peu traqué comme ça dans son journal, et voilà que quelques jours plus tard, à 1000 mètres plus haut, dans ces endroits où vous êtes allés, là où il y a cette fameuse église catholique qu'on voit dans le film, Cédronque, il tombe sur Alexandra, et il se dit, catastrophe, cette femme-homme, cette Amazone va me voler mon rêve de la reine des femmes et d'aller chercher la reine des montagne. Amazones. Et je suis sûre que c'est ça qu'elle cherche. Elle ne me dit pas la vérité. Elle cherche la reine des Goloques. Et il projette sur elle sa dissimulation. Mais elle est franche. Elle lui dit, mais non. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas lui dire qu'elle va rentrer au pays interdit. Il sent qu'elle ment. Et ils se mentent mutuellement. Et j'ai reconstitué, à partir des archives de Roch et d'Alexandra, celle de Roch étant beaucoup plus codée, mais je soupçonne d'ailleurs Roch d'avoir eu un deuxième journal secret, et que celui qui est à Édimbourg est le journal officiel, mais qu'il y en a certainement un qui traîne ou un autre qui a été brûlé, peu importe. Mais à partir de ça, j'ai reconstitué la rencontre. Et donc, il suit Alexandra sur les chemins que vous avez filmés. Vous savez, quand les chemins qui s'écartent. Lui, il y a un troisième personnage. C'était Joseph Roch qui la suit à la jumelle et qui s'est dit, ouf, elle va vers le royaume, le pays interdit.
Il la surveillait.
Il la surveillait. Il l'a dit, d'ailleurs. Mais ça va être très important parce que ces deux-là qui se sont regardés dans ce fameux endroit avec le pont de bois, la mission, le froid, etc., l'abbé qui leur donne à manger, etc., les mules, tout ça, ça va être très important parce que quelques années plus tard, pour Alexandra, il va se passer quelque chose de terrible. On va mettre en doute le fait qu'elle soit rentrée au Tibet. On va dire que c'est pas vrai ou que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à sa place. Vous savez, nous, les femmes, au début, quand on écrit, tout ce qu'on a fait, c'est d'autres qui l'ont fait. Moi, quand j'ai écrit le Nabab, on a dit « elle a des nègres ». On a même écrit sur moi que j'avais tourné dans des films porno pour payer mes nègres. Vous voyez ce que c'est que la condition de la femme écrivain. Comme je dis toujours, après Marguerite Duras, c'est très bien en vieillissant. Ça s'arrange. C'est pas maintenant qu'on va dire que je tourne dans des films porno pour payer mes nègres. Puis, comme j'écris dans la presse... Hein, bon, vous voyez comment c'est la condition des femmes écrivains. Il faut supporter ça, hein, je peux vous dire. Et alors, on va mettre son exploit en doute. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écrire à Roch.
Alors qu'ils étaient un petit peu...
En froid. Parce que lui, elle l'a éclipsé. Elle l'a éclipsé quand son succès. Lui, il ne va jamais trouver le royaume des femmes. Forcément, le royaume des femmes, il était là où il vivait, au Yunnan. Il est allé chercher, c'est très bouddhiste, très loin, ce qui était sous ses yeux. En termes bouddhistes, il a découvert l'insoupçonné, non en le cherchant, Mais en se perdant, et c'est insoupçonné, ça a été le déchiffrement de la langue nashi au lieu d'être célèbre par le poids des mots et le choc des photos. Mais revenons à Alexandra. Il a été jaloux parce que lui, effectivement, c'était, elle l'a fait. Il savait bien qu'elle l'avait fait rentrer au Tibet. Mais elle va lui écrire, va lui dire « Est-ce que vous pouvez attester ?» Et là, il va être très bien. Il va écrire des lettres pour témoigner qu'elle est vraiment entrée au Tibet. Et cette rencontre sur ce fameux chemin, ce que j'adore dans votre film, c'est les deux chemins qui se séparent. C'est là qu'ils se sont séparés. C'est là au
Kawakarpo.
J'ai adoré cet endroit. C'est très bien filmé et bravo. Et c'est symboliquement très fort. Mais c'est aussi pragmatiquement très fort puisque c'est peut-être leur karma qui les a mis sur le chemin l'un de l'autre, et alors qu'ils se détestaient,
ils se regardaient à distance.
Certainement...
Mais Alexandra, non.
Elle ne le détestait pas. Elle était plus forte que lui, oui. Aussi.
Quand on parle de femme-homme, parce qu'à cette époque-là, moi maintenant, ça s'apaise un petit peu. Mais il y a 50 ans, quand on venait me parler d'Alexandra David-Nel, qu'est-ce qu'on disait? C'est pas une femme, c'est 10 bons hommes, cette femme-là. Une femme qui fait quelque chose, c'est pas une femme, c'est un bonhomme. Alors maintenant, quand même, ça se dit un peu moins. On me dit quand même, quel être d'exception. Mais à cette époque-là, c'est vrai.
Moi, quand je dis femme-homme, je veux dire elle a un équilibre parfait entre le yin et le yang. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Mais elle ne s'est pas non plus laissée conditionner par les modèles féminins imposés. C'est ça que je veux dire. Je l'emploie évidemment entre guillemets. Mais pour ce qui est de Rock, il va être capital dans son histoire parce qu'il va permettre d'accréditer parce que ça a été horrible pour Alexandra David-Nel cette histoire
au moment de son retour, de son arrivée à Lhasa. Absolument. Ça va être mis en question. Absolument. À la parution de son livre.
Et je crois aussi qu'il y a un autre point, c'est que moi je suis partie sur les recherches sur les pas de Rock jusqu'en Amiémachen, dans le massif où se tiennent toujours les Goloks, grâce à un texte très étrange écrit par ce qui était manifestement un homme travesti, qui était René Dunant,
oui,
qui était certainement un personnage qui a joué un rôle très important le féminisme des années 1910-1920 et qui était également proche de Alexandra. Et je raconte un texte très fantaisiste qui racontait l'histoire de la reine des Goloks, du royaume des femmes. Et j'ai tiré ce fil comme ça, grâce à Internet, et je me suis retrouvée un jour à 4700 mètres avec mon éditrice mourante chez les Goloks qui nous ont sauvés dans des vallées où vous n'êtes pas allés, mais dont vous imaginez. Et ce qui m'a amusée dans mon histoire, après coup, c'est que moi, je me suis retrouvée à 54 ans à faire du cheval sur une selle en bois. Je n'avais jamais fait de cheval de ma vie. Et j'ai vécu là des histoires extravagantes, dangereuses d'ailleurs, bien malgré moi, parce que je n'avais pas envie de prendre de risques. Mais après, j'ai réfléchi, 54 ans, c'était le même âge qu'Alexandra quand elle est rentrée. Et ça, vous êtes troublée, mais...
Des jolies synchronicités.
On n'est jamais troublé que quand on est occidentaux. Vous savez bien que dès qu'on est en Inde ou au Tibet, tout ce genre de choses ne trouble absolument personne. Et ce sont bien entendu les Indiens et les Tibétains qui ont raison. Il faut s'incliner devant l'étrange comme une dimension essentielle de l'existence, aussi essentielle que la raison. On raisonne juste, on imagine juste, l'étrange est juste et le pas étrange est juste aussi.
Merci beaucoup. On vous écouterait pendant des heures. Alors, il nous reste peu de temps. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Parce qu'on a peu de temps avant de vous inviter à gagner le foyer pour partager encore un moment ensemble et déguster du bon thé tibétain. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions pour Marie-Madeleine, Irène Frein ou Jeanne Mascolo? Alors, je ne vois pas très bien sur avec la lumière. Des questions sur Alexandra. Peut-être que vous pourriez nous raconter, Marie-Madeleine, un peu en deux mots, qu'était une journée passée avec Alexandra? Qu'est-ce que c'est que 24 heures passées avec Alexandra David-Nel?
C'est difficile.
C'est difficile, mais alors.
C'est difficile parce qu'il n'y avait pas d'heure pour, il n'y avait pas d'heure pour manger, pas d'heure pour travailler, pas d'heure pour dormir. Quand à 2-3 heures du matin, j'écoutais madame, on est fatigué, on va aller se coucher. Oh, mais tu n'es pas fatigué puisque tu parles. Bon, alors voilà, on préparait un repas pour midi, on mangeait à 4 heures parce qu'on n'avait pas le droit de se coucher sans en faire quelque chose de constructif. C'est-à-dire, elle était en train d'écrire un bouquin, il fallait faire quelques phrases ou un paragraphe là-dessus, on n'avait pas le droit de se coucher si on n'avait pas fait quelque chose de constructif. Voilà. Il n'y avait pas d'autre. Voilà.
Donc, est-ce que c'était pour vous un travail quotidien que l'écriture et la recherche qu'Alexandra a célébré jusqu'au dernier jour de sa vie, d'être dans la quête de l'écriture, c'est-à-dire que vous l'accompagniez chaque jour dans ce travail.
Elle était presque paralysée, donc j'allais chercher les livres dans la bibliothèque. Puis alors, à la fin de 3 ans, avant, quand elle avait 97 ans, elle n'a plus écrire elle-même. Oh là là, je la revois encore. Elle me disait dire que maintenant, pour écrire, j'ai besoin de ça. Elle avait besoin de moi. Elle était vexée de voir qu'elle ne pouvait plus tout écrire. Elle a été un monument jusqu'au bout. Vous savez que quelques jours avant sa mort, elle commençait 4 livres. Des notes pour faire 4 livres. Jésus, patriote juif ou mythe grec, le Tibet, le Dalai, le Tibet des Chinois, l'impossible communiste et communiste triomphant, et il y en a une quatrième, je ne sais plus ce que c'est.
Hein?
Non, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, bref. Enfin, oui, jusqu'au bout, physiquement, elle ne marchait plus, mais alors la tête, c'était intacte.
Et Marie-Madeleine, comment... vous la sentez toujours à côté de vous?
Après 40 ans.
Oui. À Digne, quelqu'un, dans la maison?
Oui, quelqu'un du ministère de la Culture me disait il y a quelque temps, vous êtes un cas unique toutes les deux. Au monde, elle disait. Parce que je suis la seule secrétaire de quelqu'un de célèbre qui, 41 ans après sa mort, est toujours là à parler d'elle. Et on parle d'elle toute la journée. Alors vous me demandez, vous savez, je ne sens pas qu'elle est morte. Moi, elle est encore là. On la sent dans la maison, on parle d'elle toute la journée. Elle a 3 visites par jour qui sont gratuites. Hein. Si vous venez faire la visite à Digne, je vous avertis, c'est gratuit.
Digne et Bain,
n'attire pas le client.
Vous vivez dans les lieux?
Je vis dans les lieux même. Je vis dans les lieux même de la maison. Parce que, voilà, enfin, pour tout vous dire... Enfin,
non, il faut raconter quand vous êtes revenue dans cette maison. Parce que quand vous avez rencontré Alexandra dans cet hôtel,
oui.
Alexandra n'habitait plus dans sa maison, Samsenzong, la forteresse.
Ah ben, c'était abandonné depuis 4 ans, voilà. Pratiquement.
Et vous êtes repartie avec elle.
Ah bon, c'était là.
Et donc, dans cette caverne d'Ali Baba de souvenirs, d'objets rapportés.
Ahurissant. J'ai vu des taudis, j'ai vu des gourbis, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Mais ça, c'était ahurissant. C'était plein d'objets, de statues que je n'avais jamais vues. C'était plein de crânes, de fémurs. Comme je m'appelle, une fois, j'ai caressé un objet, j'ai dit, c'est peut-être un perronnet, comme je m'appelle perronnet, tout le monde rigolait. Tout le monde m'a dit que j'avais un nom prédestiné pour vivre dans cette maison, quand on s'appelle perronnet, évidemment. Ouais, mais j'étais sidérée. Moi, 3 jours et 3 nuits en arrivant chez Alexandra, je n'ai pas dormi du tout, et je ne pleurais pas. Mais les larmes coulaient sur mes joues. Alors, bon, je me suis regardée dans une glace, j'ai dit, écoute, t'as jamais été jolie, mais alors en ce moment, c'est pas brillant. J'ai dit de 2 choses l'une, ou tu t'en vas, tu t'adaptes. Et je me suis adaptée, voilà.
Et à l'heure actuelle, vous vivez ça comment?
Mais maintenant, vous savez, je suis un peu sclérosée par la fondation. Alexandra m'a vampirisée, je suis sclérosée par la fondation. Parce que je ne vous cache pas qu'il y a des fois, quand même, j'aurais bien voulu me retirer de tout ça. Mais quand les visiteurs viennent... Des fois, quand il téléphone, il dit, ça se vous garde, il y a bien les visites ce jour-là, mais est-ce qu'il y aura Marie-Madeleine Perronnet? Il demande à ce que je sois là. Je suis le petit trait d'union. Moi, je ne suis rien, moi. Mais je suis le petit trait d'union entre Alexandra et le grand public. Alors, ils veulent me voir. Je suis un peu la bête curieuse.
Oui, sans vous, l'œuvre aurait été perdue. Vous le savez bien.
Ah, ça, c'est sûr. Si j'avais pas été là...
Comme le disait Jeanne, grâce à vous,
voilà,
beaucoup de livres ont été rédités.
Vous êtes la seule qui lui ait résisté.
Je suis la seule qui y ait résisté. Ah oui,
voilà.
Et c'est ce qui l'a enchanté. Enchanté. Ben moi, j'avais toujours été plutôt rebelle. Enfin, bref, un peu révolutionnaire.
Redites-nous la phrase qu'Alexandra vous a demandé de dire d'elle quand elle serait partie.
Ah oui, la phrase. Oui, j'ai dit, je serai un monument. Je dirais. Non, mais quand je dis qu'elle est un monument d'égoïsme.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Elle n'est pas du tout égoïste. Parce que quand on voit tout ce qu'elle a fait, toute son œuvre, elle a voulu partager avec les autres. Et je l'ai vu avoir des générosités avec des. Il y avait des petits jeunes qui faisaient du stop pour venir la voir. elle leur payait le train pour repartir, parce que beaucoup la croient avare, etc., parce que la maison est très pauvre chez nous. Hein. On a fait des belles choses après qui sont plus riches, mais elle, d'ailleurs, le Dalai Lama, quand il est rentré dans sa chambre en 82 la première fois, il a eu les larmes aux yeux. Il a dit, là, on voit qu'une bouddhiste a vécu. Elle a vraiment, c'est un des rares philosophes qui n'a pas dit, fais ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Voilà. Mais je vous dis, je ne sens pas qu'elle est morte, et heureusement. Heureusement, parce que par deux fois, une fois, vous savez, un jour, elle m'a dit, oh, quelques jours avant sa mort, elle me dit quand même, j'aurais pu vivre encore, elle allait avoir 101 ans, hein, elle me dit, j'aurais pu vivre encore quelques années, mais à cause de ton sale caractère, tu abrèges ma vie. Vous savez ce que je lui ai répondu ? Ah ben, j'ai dit, heureusement qu'on s'est rencontrés, autant m'était plus jamais débarrassé de vous. Elle avait beaucoup d'humour, hein, il fallait bien qu'il y ait des qualités pour que je la supporte. Mais elle ajoutait aussi ceci. Elle m'a dit, oh, elle me dit, tu es malheureuse avec moi, je le sais. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Tu le seras bien plus sans moi. Et si vous saviez combien c'est vrai. Il ne faut pas que je sente qu'elle est morte. Je vis avec elle tout le temps.
Elle est là. Elle
bah
est
oui,
là,
mais on le sait. Et puis vous êtes vraiment plus, voilà. Plus bah, que ce trait d'union.
Je ne voulais surtout pas une vie banale. Je vous jure, mesdames et messieurs,
que vous ne l'avez pas eu.
J'en demandais pas tant.
Alors, peut-être, en tout cas, on va peut-être terminer cette conversation sur ces mots qui sont magnifiques. Peut-être redire la phrase si célèbre à Alexandra qu'elle aimait répéter de l'Ecclésiaste, qu'elle empruntait à l'Ecclésiaste, marche quand ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux.
Non, alors, moi, je voudrais finir sur une chose. C'est-à-dire que moi, je vous l'ai dit, je n'avais pas d'instruction, pas de culture. Et quand j'ai découvert cette correspondance, j'ai dit, toi, il faut que tu fasses, parce que je pensais qu'il y avait moi qui pouvais toucher ça. Quand j'ai touché cette correspondance, j'avais l'impression de violer. Puis finalement, c'est magnifique, c'était tellement beau, ça aurait été dommage que je brûle tout ça. Alors, et j'ai dit, ben, toi, tu vas faire ce que tu veux, parce que ça fait connaître Alexandra telle qu'elle était. Bien ou mal, ça ne me regarde pas, elle est comme ça. Bon, et j'ai dit, maintenant, en la faisant connaître par cette correspondance, par 10 ans avec David Nel, qui a donné lieu à cette pièce de théâtre, bon, je dis, je suis sûre que les jeunes qui sont plus évolués vont... comme elle avait 150 ans d'avance sur nous. Je dis, les jeunes vont s'intéresser à elle et je suis sûre que dans 50 ans, elle aura du succès. Mais c'est ce qui est arrivé par les dames que vous avez autour de vous. C'est elles qui ont pris le relais. Moi, maintenant, je ne suis plus rien, je suis zéro. Grâce à cette correspondance, grâce à tous ces témoignages, c'est elles qui ont pris le relais. Mesdames, merci. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors évidemment, tous ces livres, tous ces manuscrits, vous pouvez les retrouver à la librairie du musée du Quai Branly. Je vous invite à ce qu'on se retrouve dans le foyer qui va être un des points centraux de cette semaine de l'Himalaya pour le départ des contes. Parce qu'hélas, nous avons dû retirer la tente qui était dans les jardins à cause de la météo et du vent fort, des hauts forts vents de l'Himalaya. Donc les départs des contes et des activités vont démarrer dans le foyer. Donc on peut se retrouver et continuer la discussion autour d'un thé ou sinon à la librairie à 6h30 du musée du Quai Branly pour dédicacer les livres, donc de la correspondance d'Alexandra David-Nel qui a été introduite par Marie-Madeleine Perronnet, à la recherche du royaume d'Irène Frein, que je vous invite véritablement à relire, et le DVD que vous avez vu aujourd'hui et le livre de l'expédition que j'ai pu faire 80 ans après, Le voyage de la grande dame. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci. J'ai oublié l'essentiel, pardon. Vous souhaitez des vœux les plus chaleureux pour cette année nouvelle. Vraiment. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci.